outros não sabem o nome dos nossos atletas que estão nos representando lá fora.
En tant qu'influenceuse, elle se sent responsable de donner plus de visibilité à ces jeux. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Il est midi 10.
Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'ai 5 ans et j'ai envie de vous dire que vous êtes sur la clé des ondes.
Et vous êtes sur la clé des ondes, c'était le journal de RFI juste avant, il est midi 10 et nous on prend l'antenne pour vous donner quelques infos sur ce qui se passe à Bordeaux en cette fin du mois d'août. Pour cela j'accueille Léa Hernandez, salut Léa.
Salut Baptiste.
Tu nous parles des squats du côté de Bègles aujourd'hui.
Oui c'est ça, mardi dernier avait lieu un rassemblement de soutien aux occupants des squats de la Toile et du Château à Bègles. Ces deux bâtiments, propriété de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique, sont sous le coup d'une ordonnance d'expulsion qui concerne une quarantaine d'occupants, familles et personnes précaires. 80 personnes se sont donc réunies mardi sur la place du 14 juillet à Bègles, occupants, sympathisants, ainsi que des collectifs militants et d'associations d'aide au logement, pour alerter sur les mesures d'expulsion à venir. On va entendre Myriam Eckert, conseillère municipale et membre du DAL 33 et du collectif CLAP 33, ainsi que la prise de parole d'un occupant. Mais tout de suite, on écoute l'analyse d'un militant qui a souhaité rester anonyme et qui connaît très bien la situation.
On est sur la place du 14 juillet à Bègles, dans le centre de Bègles, entouré de commerces et de petites installations végétales. Et une cinquantaine de personnes ont répondu à un appel à rassemblement contre deux expulsions imminentes qui vont avoir lieu sur Bègles, dans le quartier Marcel Samba, de deux lieux qui sont occupés depuis quelques temps, 10 mois et 2 ans, par des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'habiter dans des maisons qui sont laissées vacantes par des gros propriétaires, en l'occurrence Euratlantique. C'est quand même la police qui vient déloger des gens, des enfants, d'une maison qu'ils habitent pour la plupart du temps, la laisser vide, derrière la barricader, empêcher toute habitation jusqu'à ce qu'un projet potentiel arrive. Donc là, ça risque d'être un cas un peu similaire. Le propriétaire, c'est Euratlantique, qui est une opération d'intérêt national des deux maisons, et qui a donc ces deux bâtiments qui étaient vacants. Il y a d'un côté le château, qui a été nommé comme ça par les habitants, qui est une grosse bâtisse occupée depuis 2 ans, pratiquement 2 ans. Depuis 2022, c'était octobre. Et qui a fait suite à une expulsion dans le quartier aussi d'un foyer appartenant à Domo France, qui d'ailleurs est actuellement encore vide et des ouvriers ont été payés pour détruire l'intérieur pour la rendre inhabitable. Dans ce château actuellement, il y a 24 personnes, des familles qui ont dû s'exiler de leur pays parce que conflits politiques, économiques, armés, il y a plusieurs situations tout aussi compliquées les unes que les autres. Il y a des personnes qui sont malades, il y a 8 enfants, dont certains qui sont scolarisés à l'école juste à côté. Donc ça fait 2 ans, il y a eu un premier rendez-vous pour un potentiel conventionnement du lieu qui pour l'instant a donné suite à rien du tout. Et là, la seule information qu'ont les habitants, c'est qu'ils vont se faire expulser par la police dans les jours qui viennent. Il y a plusieurs mails qui ont été envoyés par des voisins, voisines, personnes sensibles à leur parcours qui sont restés sans réponse, donc à la mairie de Bègles, à Euratlantique, alertant de la situation et en disant que ce serait bien de leur occasionner du sursis et trouver des solutions. De l'autre côté, le CCAS a essayé de rencontrer les habitantes, mais ont souvent trouvé porte close du fait des parcours des familles qui, ont soit plus confiance, soit se sentent pas d'accueillir au premier rendez-vous des gens chez eux dans leur intimité. C'est surtout des associatifs, des personnes locales qui vont soit leur dire bonjour, les intégrer dans le quartier, faire de la récup alimentaire. L'association Alimentation Solidaire 33 qui fait des distributions tous les vendredis à prix libre et de manière inconditionnelle, donc beaucoup vont se nourrir là-bas. Et donc là, l'objet du rassemblement, c'était surtout visibiliser ça. Ça se passe trop souvent en silence. Et du coup, ça fait chaud au cœur. Il y avait quand même beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes, beaucoup de collectifs, enfin de représentants d'associations, que ce soit des gens qui vont aider à la sécurisation des lieux habités. Donc la mise en eau, la mise en électricité, des problèmes. Là, il y a actuellement 7 familles pour 24 personnes. Donc il y a des petites familles aussi, mais toutes plus bricoleuses les unes que les autres. Ils ont pu reconstruire des douches, des cuisines, à l'intérieur repeindre. Donc il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été mis. Et ils vivent de façon satisfaisante. Et toutes ces familles-là s'entendent, mis face à l'expulsion, souhaitent habiter ensemble. Donc ces familles dorment plus de la nuit. Il y a une violence qui se rajoute à la violence de l'expulsion. C'est celle avant l'expulsion qui est... L'incertitude, on ne sait pas à quel moment la police va débarquer. Déjà, le sommeil, il est complètement atteint. On ne sait pas trop est-ce qu'on laisse les enfants ou pas pour subir un moment comme ça. Donc il y a certaines familles qui vont partir très tôt le matin, à 6-7 heures, pour juste passer du temps ailleurs, en espérant qu'il n'y ait pas d'expulsion et revenir l'après-midi. En général, les expulsions, c'est le matin. D'autres vont passer la nuit dans une voiture s'ils en ont. Donc voilà, c'est un peu délicat comme situation. Et en fait, je parle de cette situation, mais ça arrive tout le temps. La semaine dernière, il y a eu deux squats à Bègles qui ont été expulsés de familles arméniennes qui ont fui la gare avec des parcours de vie pareil, assez horribles, à la demande de Vilogia, un bailleur social, et à la demande de l'AFPA pour laisser les bâtiments vides, pour l'instant en tout cas. Souvent, dès qu'une maison est occupée, il y a tout de suite un projet hyper urgent qui arrive et qui dit « Bah non, en fait, les familles ne peuvent pas rester, on est désolé, même pas désolé, elles doivent partir. » Et du coup, on engage en procédure quelque chose de très rapide. Et avec les nouvelles lois qui sont passées l'été dernier, la loi Casbah-Berger, ça accélère encore plus les procédures, ça criminalise parce que maintenant, ces familles, ces personnes qui y occupent pour vivre risquent et de la prison, des amendes énormes. Et les associations qui vont parler de squat comme étant une solution plutôt que de condamner se voient aussi sous le joug de l'apologie d'une pratique qui fait peur à l'État et au capital, donc condamnable de 3 750 € d'amende.
Bonjour, je m'appelle Myriam, j'étais ici avec trois casquettes aujourd'hui en tant que conseillère municipale pour le collectif Bordeaux en lutte, en tant que membre de l'association de droit au logement, le DAL 33, et en tant que membre du collectif contre les abus policiers, le CLAP 33. Voilà les trois casquettes que je portais aujourd'hui. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, beaucoup de choses évidemment, mais comme on parle aujourd'hui de gens qui vont être mis à la rue, de rappeler qu'à Bordeaux et sur la métropole, déjà, il y a de quoi largement loger tous ces gens. Et j'ai rappelé ce chiffre, le dernier chiffre de l'INSEE, qui parle de 30 000 logements vacants sur la métropole. 30 000, c'est énorme, hein. Et rien que sur Bordeaux, 12 138, c'est très précis, 12 138 logements qui sont vacants, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dedans. Voilà, que les gens comprennent bien ce qu'on appelle un logement vacant, c'est-à-dire un logement habitable où il n'y a personne dedans, ils sont au nombre de 30 000. Donc on a largement le place de loger non seulement les familles qui vont être expulsées, j'ai parlé de la situation des étudiants qui est dramatique au niveau du logement, plus tous les gens qui sont effectivement sans abri qu'on ne connaît même pas au final. Voilà, comment recenser tous ces gens, plus tous les gens qui sont mal logés, qui vivent dans des taudis, etc. Donc le logement, c'est un problème qui est fondamental, parce que sans toi, tout devient compliqué. Hein. Comment trouver du travail, comment avoir une vie familiale ou amoureuse quand on est dans la rue, c'est quasiment impossible. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre d'avoir une maison pour pouvoir après être dans le monde. Voilà. Et de rappeler aussi, encore une fois, l'inertie des pouvoirs publics face à ces problèmes. C'est-à-dire que la dissémination des pouvoirs fait qu'on ne tape jamais à la bonne porte pour avoir de l'aide. On va taper à la mairie qui va nous dire « Ah ben ouais, mais là c'est le département », qui va nous dire « Ah mais là c'est la région, ah mais là c'est l'État ». Et au final, à force de se renvoyer la balle, on ne sait plus, nous, associatifs, à qui demander de l'aide.
Et tu parlais de la loi Casbah-Berger aussi, qui n'a pas du tout été suivie dans les mobilisations.
Non, pas du tout. Moi, j'ai essayé, là aussi, vainement, pendant le mouvement retraite, j'en ai parlé au syndicat, en les alertant sur cette loi, d'autant plus. Parce que je sais que quand on parle du logement, finalement, les gens, on a l'impression que comme ça ne les concerne pas vraiment, c'est toujours pareil, ils ne vont pas y aller, quoi, tu vois. Donc, il y avait quand même un dispositif dans cette loi qui disait que toute occupation d'un lieu économique pouvait être punie de 7 000 euros d'amende, je ne sais plus combien d'années, 4 ans de prison. Donc là, ça concernait bien les syndicats. Ça voulait dire que si un syndicat appelait à occuper une usine ou à un piquet de grève, par exemple, il risquait d'être poursuivi et condamné. Donc je me suis dit, les syndicats, ils vont au moins prendre ce volet de la loi et avertir les gens. Parce qu'encore une fois, si on ne peut plus revendiquer, à quoi ça sert d'être dans la rue pour revendiquer quelque chose? Le plus important, c'est quand même de pouvoir conserver le droit de revendiquer, il me semble. Donc voilà. Mais le problème des retraites a été tellement prégnant que pendant 6 mois, la France s'est mobilisée uniquement autour de ça. Et encore une fois, quand j'en parlais au syndicat, on me disait quoi? On me disait les gens ne sont pas prêts. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu en sais? Et quand bien même les gens ne seraient soi-disant pas prêts, souvent c'est parce qu'ils ne sont pas au courant, parce que s'ils sont au courant, je pense qu'ils seraient un peu plus prêts. Et quand bien même ils ne sont pas prêts ou pas au courant, c'est bien nous, responsables politiques, responsables syndicalistes, d'avertir les gens sur les droits qu'ils sont en train de perdre, et donc de les mobiliser autour des droits qu'ils sont en train de le perdre. Donc leur discours ne tenait pas. Au conseil municipal, je suis toute seule. Donc évidemment, j'en reparlerai comme je fais à chaque fois, mais je ne peux strictement rien faire. Là, pour le coup, honnêtement, et puis en plus, depuis que je suis conseillère municipale, comme les gens savent aussi que je suis au droit au logement, je reçois un nombre incalculable de mails pour me dire, je suis à la rue, j'ai mes enfants, en espérant que je pourrais les sauver de rien. Je n'ai rien. Ça fait encore une fois 2 ans et demi que je demande aussi à la mairie la liste du patrimoine immobilier de Bordeaux. Voilà, je veux savoir qu'est-ce qui est à nous, les Bordelais. Eh bien, pareil, je n'ai pas accès. On me dit, on ne va pas vous la donner. Si on vous la donne, vous allez ouvrir des squads et machin. Ben oui, je vais le faire si tu ne le fais pas, en fait. Concrètement, faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà. Donc, toute seule, à la mairie, je ne peux rien faire. Mais par contre, j'espère que maintenant que les gens commencent à se dire qu'ils doivent faire de la politique et ne plus se contenter que de voter, qu'ils savent qu'à Bordeaux, il y a un endroit citoyen, détaché des dogmes politiques, cet outil est fait pour eux. C'est un outil citoyen, au service des citoyens et des luttes bordelaises. Et j'espère que ça va les inciter à nous rejoindre et à trouver collectivement des solutions. On ne fera rien sans la collectivité. Donc, je propose juste aux gens de nous rejoindre, de s'engager. Voilà.
Surtout que la situation à Bordeaux sur les logements, elle n'est pas près de s'améliorer.
Ben, je ne vois pas comment ça s'améliorerait, ni à Bordeaux ni ailleurs, de par la loi Casbarian qui va faciliter les expulsions, de par la paupérisation qui s'agrandit. On parlait des quartiers populaires, la difficulté des quartiers populaires. Moi, ça fait plusieurs conseils municipaux où je dénonce quand même le fait que le quartier populaire maintenant est partout. Quand on se balade au Grand Parc ou quand on se balade en centre-ville, on voit plus de misère et de pauvreté. Elle est plus visible en centre-ville qu'au Grand Parc au final. Voilà, donc... On ne sait plus où est la limite du quartier populaire. On dit il n'y a plus de services publics dans les quartiers populaires. Mais je rappelle que moi, habitant en centre-ville de Bordeaux, aujourd'hui, j'achète mon timbre au buraliste, je dépose mon courrier au Carrefour Market et quand je vais chercher un colis, à la papeterie. Donc je ne suis pas mieux loti parce que soi-disant, je suis en centre-ville en termes de services publics. Donc à un moment donné, la seule chose qui nous sortira de ça, c'est une prise de conscience que ce problème...